Alors, chers amis, chers membres de l'association franco-écossaise, merci d'être présents ce soir pour cette dernière séance de l'année 2025. Nous sommes réunis ce soir pour une conférence sur les caricatures des Écossais en France au XVIIIe siècle, assurée par mon collègue Pascal Dupuis, qui nous vient spécialement de l'Université de Rouen. Et donc, on le remercie très chaleureusement d'être parmi nous et de nous partager son savoir. Alors, depuis notre dernière conférence de Clotilde de Prunier, l'actualité des relations franco-écossaises a été marquée par la fête Saint-André à l'ambassade de Grande-Bretagne, à laquelle Thierry et moi-même nous nous sommes rendus. Ça a été un grand succès et on a pu poursuivre des échanges probablement fructueux.
Ce qu'il faut dire, c'est une réunion un peu, je ne dis pas commerciale, mais un peu enfin, où les Écossais montrent leur...
La quintessence de leurs produits, voilà, et technologies.
Ça, c'est pas purement protocolaire. Là, c'est voilà.
L'ambassadeur était là.
Oui, mais bien sûr, mais c'est...
promouvoir les produits écossais et les échanges universitaires. Vous aurez eu le bulletin qui est très beau et donc il faut remercier Thierry et Mathieu d'avoir œuvré en ce sens à un coût qui est bien plus modeste que celui que nous avions l'année dernière qui menaçait de la pérennité du bulletin sous format papier. Notre AG aura lieu au mois de janvier, le dernier mercredi du mois. Et juste à noter, le prochain prix de thèse aura lieu en janvier 2027. Donc ce n'est pas cette année qu'on va remettre, enfin l'année qui vient, le prochain prix de thèse, mais l'année suivante. À noter, à garder en ligne de mire, c'est qu'on m'a demandé en juillet 2027, à l'occasion du colloque de la 18th Century Scottish Studies Society, de permettre l'ouverture de notre lieu de réunion pour permettre aux congressistes, en particulier américains, de visiter le collège à la chapelle et peut-être d'essayer de voir comment s'organisaient les lieux, en particulier où était la bibliothèque, où était le réfectoire. Donc voilà, il va falloir qu'on engage des recherches à ces sujets pour être performant début juillet 2027. Juste pour donner la suite des fêtes que nous avions, que James avait supervisées à Grisy, dans l'Essonne, au mois de septembre, on a une invitation, enfin j'ai eu une invitation du maire d'Aberdeen et de l'évêque d'Aberdeen à prononcer une conférence au mois de mai 2026. Donc ça permet de consolider nos relations avec le côté écossais. Alors, sans plus tarder, donc je vais présenter Pascal Dupuis, qui est maître de conférence en histoire moderne à l'Université de Rouen, comme je le disais, qui fait des recherches depuis 20 ans à peu près, 25 ans, sur les images satiriques européennes autour de la Révolution française et sur l'impact de la Révolution française dans les îles britanniques. C'était deux thèmes majeurs de recherche. Et a signalé en 2022 aux presses universitaires de Rouen, tu as publié un ouvrage qui s'appelle « La caricature sous le signe des révolutions, mutation et permanence au XVIIIe et XIXe siècle » et a noté une participation antérieure de la promotion des caricaturistes Gilray, Rawlinson et tout ça, au musée Carnavalet, il me semble, en 2008.
Tout à fait.
Tu as été en partie commissaire d'exposition. Ou associés à leur...
Si, absolument. Il y avait deux expositions à ce moment-là, et une portée sur les caricatures anglaises conservées au musée Carnavalet. Donc, il y avait eu un catalogue qui avait été réalisé pour l'occasion. Donc, en association avec le musée Carnavalet et la ville de Paris.
Très bien. Et à noter que, outre tes multiples activités de recherche, tu es actuellement vice-doyen des relations internationales de l'université et co-directeur du département d'histoire. Donc merci encore de venir aujourd'hui et de prendre sur ton temps pour participer à nos activités.
Merci beaucoup. Merci. Tout d'abord, merci à vous de m'avoir invité. Je suis ravi, premièrement, d'assister à cette association, premièrement, et puis deuxièmement, je suis toujours heureux de parler de caricatures. Donc voilà, et ma femme étant écossaise, mais elle n'a pas pu venir ce soir, voilà, c'est en plus parler devant un public franco-écossais, j'en suis aussi particulièrement ravi. Merci à Clarisse, au bureau, présidente et vice-président aussi de m'avoir invité pour cette communication. Je vais essayer de ne pas être trop long, je regarderai pas trop mes notes, éventuellement parfois pour quelques petites citations, mais l'idée étant de regarder plutôt les images, peut-être vous les faire découvrir pour certaines d'entre elles, peut-être que vous en connaissez également. Et ensuite, on pourra aussi avoir une discussion si vous avez des questions sur certaines images plus précisément, où elles se trouvent, enfin voilà, des détails matériels que je ne vais pas avoir le temps d'aborder. Alors, pour ce qui est du titre, j'en suis entièrement responsable. Je pense que je n'ai pas dû t'envoyer le petit résumé que tu avais dû me demander à un moment donné. Et en fait, je vais évidemment évoquer la caricature française, c'est dans le titre, mais je vais aussi évoquer peut-être même un peu plus la caricature anglaise, que je connais pas trop mal, et dans la mesure où aussi naturellement il y a beaucoup plus de caricatures anglaises portant sur les Écossais que de caricatures françaises portant sur les Écossais, pour deux raisons. Alors une raison évidemment tout à fait naturelle et qui est facile à comprendre, c'est que l'Écosse fait partie depuis 1707 de la Grande-Bretagne, avec des remous importants pendant la première moitié du XVIIIe siècle. Donc les caricaturistes vont évidemment s'intéresser à ce pays qui est à présent uni à la Grande-Bretagne, en sachant que la production de caricatures dans cette première et deuxième moitié du XVIIIe siècle, enfin en gros tout au long du XVIIIe siècle, est quand même avant tout londonienne. Donc on pourrait dire anglaise, même si un certain nombre de caricaturistes sont d'origine, eux, écossaise. Donc premièrement, les Anglais, on va dire pour faire simple, ou les Londoniens et les caricaturistes ont naturellement évoqué les Écossais dans leurs images, parfois violemment, parfois de manière un peu plus adoucie. Et deuxième élément aussi important qui marque ou qui explique ce sorte de déséquilibre, alors déséquilibre qui commence à s'effacer au tout début du 19e siècle. Donc c'est pour ça que je vous montrerai pas mal d'images françaises de cette période du début du 19e siècle. Donc ce déséquilibre, il est aussi dû au fait que la production de gravures satiriques en Angleterre est très en avance sur la production française, qui voit véritablement son émergence, même si elle a pu apparaître antérieurement, manière compliquée, mais un petit peu sous la Fronde, sous Louis XIV, au moment aussi du jansénisme, de l'éviction des jésuites. Donc il y a des moments en France où apparaît une production satirique. On ne peut pas exactement non plus parler de caricature. Je pourrais faire, si vous voulez, la différence tout à l'heure. Mais c'est vraiment la Révolution française, grâce à sa liberté d'expression qu'elle institue avec la déclaration dans un des articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'il va y avoir une véritable vague de caricatures qui va apparaître. On pourrait presque parler à l'image de l'âge d'or de la caricature anglaise entre les années 1760 et 1820. On pourrait parler d'un âge d'or de la caricature française, mais là beaucoup plus restreint dans les premières années de la Révolution. Et donc, évidemment, en raison aussi de ce déséquilibre, la production de caricatures autour d'un thème quand même tout à fait particulier, qui est un thème national ou régional autour de l'Écosse et des Écossais, est évidemment très réduit. Et donc, il faudra attendre, une fois de plus, les années 1810, puis vous comprendrez tout à l'heure, plus exactement les années 1814-1815, pour qu'apparaissent un certain nombre de caricatures françaises autour de l'Écosse et des Écossais, dont vous avez un exemple ici en prélude de cette communication. Alors, ma communication, justement, va se diviser en trois points, parce que je ne voulais pas être prise à défaut et ne pas parler quand même de la caricature française. Donc, je vais quand même évoquer d'abord la production britannique, pour ceux... Alors, si c'est des choses que vous connaissez par cœur, vous me faites des signes et puis j'irai plus vite. Si c'est des choses qui vous semblent, enfin, qui vous intéressent, j'irai jusqu'au bout de mes pages. Donc première partie sur la production anglaise, la manière dont elle s'est développée et les raisons pour lesquelles elle s'est développée en Angleterre en particulier, et pourquoi donc on part d'un âge d'or de la caricature anglaise. Deuxième partie, ben, plus rapide sur la production française. Je l'ai déjà dit en quelques mots, les raisons de ces différences en termes de quantité et de qualité de la production. Et puis ensuite, on viendra au regard des deux pays sur les Écossais et l'Écosse, mais donc surtout sur les Écossais, vous verrez. D'ailleurs, moindre sur les Écossaises. Et voir aussi les thèmes qui apparaissent régulièrement. Alors, à une époque, ben, là aussi, c'est des choses que vous connaissez probablement, à une époque où l'Écosse, si on part des années 1750, du milieu du XVIIIe siècle, est un peu au centre des préoccupations autour des poèmes d'Ossian. Donc, il y a une sorte de réhabilitation, évidemment, de l'Écosse et des Highlands en particulier. Et puis, dans le même temps, c'est aussi, dans les caricatures en tout cas, une réalité toujours un peu la même, ancienne, faite de poncifs et de stéréotypes qui est proposée par les caricaturistes. Donc, il y a à la fois cette espèce de, en tout cas, ce regard d'un certain nombre d'érudits qui regardent avec admiration pour des raisons aussi, enfin, connaissez probablement aussi, hein, sur l'émergence de cette nation écossaise dans des temps plus reculés autour des poèmes d'Ossian. Et puis dans le même temps, ben, les poncifs ne disparaissent pas et on va le voir, ils sont toujours utilisés, ce qui semble aussi naturel dans la caricature, par les caricaturistes. Alors, première image, je suis désolé Clarisse, je te mets à contribution, pour dire en trois mots hein, que la caricature, ou en tout cas les images satiriques, ont une vieille tradition. Alors là, il y a beaucoup de débats hein, sur la question. Là, il s'agit d'un graffito à Pompéi, donc un homme crucifié à tête d'âne, qui, donc déjà deux éléments. Premièrement, une attaque contre ces premiers chrétiens qui célébraient un homme crucifié et que l'on transforme en un âne, en un être hybride, qui est aussi un élément tout à fait classique de la technique de la caricature, qui utilise énormément ce qu'on appelle soit l'animalisation, soit la zoomorphisation, pour discréditer. Faut que je reste près du micro.
Faut que tu sois pas trop loin.
Ah, d'accord. Je suis en cours et donc je circule, donc je vais rester près du micro. Donc animalisation, zoomorphisation, qui sont des techniques de la caricature et donc qu'on retrouve déjà dans ces attaques graphiques, visuelles, depuis des temps très, très reculés. Alors ensuite, ben, la satire va bénéficier, donc image suivante, la satire va bénéficier aussi, toujours autour d'ailleurs de cette animalisation, de ce discrédit en associant hommes et animaux, autour de Luther, avec une attaque au corps en particulier, des motifs qui commencent à apparaître, avec donc des caricature, est-ce qu'on peut exactement parler de caricature? En tout cas, des attaques visuelles et graphiques qui commencent à apparaître, alors grâce surtout à quoi? Grâce à l'imprimerie. C'est évidemment l'imprimerie qui va pouvoir permettre cette diffusion de ces estampes, de ces gravures. Sachez aussi, mais je pense que c'est aussi des éléments que vous connaissez, qu'à l'époque et jusqu'au 19e siècle, donc quand on parle d'âge d'or de la caricature anglaise au 18e, on est encore dans des estampes qui sont vendues séparément, des gravures sur cuivre, après avoir été des gravures sur bois, et qui ne sont pas associées à la presse. Il faudra attendre hein, l'invention de la lithographie à la fin du 18e siècle et surtout son application au 19e pour qu'il y ait à présent au 19e siècle une association donc, entre les journaux illustrés, donc presse et caricature. Alors ensuite, cet art visuel commence à cheminer. On le retrouve un peu en Italie. On considère aussi que c'est un peu le berceau en Italie. Au lendemain de la Renaissance, les peintres de la Renaissance eux-mêmes avaient commencé à élaborer des travaux pratiques d'exagération des visages afin d'atteindre le beau, en essayer de se rapprocher du laid, L-A-I-D. Et donc ces techniques ont permis aussi de s'apercevoir qu'il y avait un petit genre qui était là plaisant et qui va attirer un certain nombre d'artistes et quelques hommes aussi, enfin le public, un minuscule public qui commençait aussi à apparaître intéressé par ces recueils qui commencent à circuler, et le terme caricature aussi commence à s'imposer. On est là à la fin du XVIIe siècle. Alors ensuite, c'est parfait, je ne vous en ai rien à dire, ça part directement. Ensuite, ça va partir vers les provinces unies, donc les Pays-Bas actuels, pays au XVIIe siècle de liberté politique. Et là, les estampes vont aussi se politiser grâce à la liberté qui règne et vont donner alors des images où on reprend encore alors l'idée de la Commedia dell'arte provenant d'Italie, des masques, ça c'est aussi un grand classique de la caricature, de l'animalisation, de la transformation des hommes et des bêtes, avec aussi ce qu'on appelle des lettres dans plusieurs langues. Là, c'est en français et en latin, souvent assez longue, assez forte, large. On n'est pas encore dans les phylactères, c'est-à-dire les bulles. On passe encore pas mal par ces informations en haut ou en bas de la gravure. Et puis, image suivante, la caricature, ou en tout cas cette satire visuelle politisée, dans les bagages de Guillaume d'Orange, arrive en Angleterre à la fin du XVIIe siècle, à la suite de la Glorieuse Révolution, et là, elle va véritablement s'implanter. Puisque au XVIIIe siècle, et donc surtout dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, mais on retrouve quand même une caricature importante, où les termes sont toujours un petit peu compliqués, mais de gravure satirique, en tout cas en Angleterre, très importante pendant toute la première moitié du XVIIIe siècle, et des gravures qui, comme vous le voyez, ne s'arrêtent devant pas grand-chose, puisque ici on a le postérieur d'un premier ministre, Robert Walpole, et on comprend bien à quoi sont obligés les courtisans pour essayer d'obtenir les grâces de ce premier ministre. Donc, une caricature ou une gravure satirique dans cette première moitié du XVIIIe siècle qui est déjà forte, qui explique, qui attaque, qui discrédite, qui vit en entière autarcie et liberté, grâce donc à la liberté politique qui règne en Angleterre. Liberté, alors avec évidemment quelques conditions, mais malgré tout, ces estampes ne sont pas poursuivies, ou très très rarement, et puis constitution aussi d'un marché, d'un public, dans la mesure où on est aussi dans un pays qui est de plus en plus alphabétisé, où il y a une avidité de l'information, où le premier quotidien apparaît en 1702, alors que ce sera dans les années 70 ans plus tard en France, vous voyez le décalage. Et donc au XVIIIe siècle, ces estampes peuvent véritablement s'implanter, se développer, s'exonérer du pouvoir et représenter la vie politique anglaise, en particulier la formation de ces deux partis, en tout cas, formations politiques les plus importantes. On prend parti d'un côté, on prend parti de l'autre. On s'informe, les caricaturistes même, auprès des journalistes. On va soi-même au Parlement, on assiste dans les tribunes aux débats qui bientôt seront autorisés à apparaître dans la presse, hein, pendant longtemps ça avait été interdit. Une fois que ça apparaît, on a moins besoin de se déplacer, on a les informations qui viennent jusqu'à sa boutique. Donc, caricature est véritablement un lieu pour l'Angleterre au XVIIIe siècle, cet âge d'or dont on parle. Alors, cet âge d'or, ça veut dire aussi la réalité d'un marché, véritablement, qui s'implante. Alors, je pourrais peut-être, si vous avez des questions là-dessus, vous expliquer comment on diffusait, comment ces gravures se diffusaient. J'ai parlé tout à l'heure d'un marché londonien, c'est avant tout londonien, mais qui commence aussi à s'exporter dans les grandes villes de province britanniques, jusqu'à Édimbourg, mais aussi en Allemagne, on en retrouve en France, enfin voilà. Donc il y a des circuits commerciaux de vente de ces images qui commencent à se développer, et donc on a aussi une professionnalisation du genre avec des artistes qui vont suivre, alors, Gilray, Rowlandson en particulier, qui vont suivre des chemins tout à fait classiques, en étudiant à la Royal Academy, la gravure, et puis pour finalement se tourner assez rapidement vers la caricature, plus probablement leur offrant plus de liberté, et peut-être même des revenus plus importants. Donc, boutiques de caricature qui ont pignon sur rue. Alors, j'avais préparé, j'ai des citations de voyageurs français, allemands, américains, etc., qui, lorsqu'ils viennent à Londres, c'est le passage obligé. On va voir les boutiques de caricature. Ça nous permet d'avoir une idée un petit peu, même si c'est une représentation, du public qui s'y trouve. En général, et d'après ce qu'on sait par d'autres sources, il est très bigarré. Des hommes, des femmes, tous les milieux sociaux sont représentés. Et on pouvait, en regardant les devantures, sans avoir à les acheter, comprendre, apprendre, voir les gravures du moment. Et donc, les marchands d'estampes, qui étaient souvent aussi des éditeurs, vont régulièrement, même très régulièrement, changer leur devanture parce qu'ils savent très bien que ça attire le public, et le public c'est aussi celui qui éventuellement achète. Donc celle-ci, la Macaroni Print Shop également, alors au-dessus c'est une exposition de caricatures, parce qu'il y a eu aussi également à cette époque des expositions de caricatures. Alors souvent elles étaient attenantes aux magasins de caricatures, et autour de thèmes, autour de thématiques, on associait un certain nombre d'images et elles étaient représentées. Alors on voit bien, hein, comme c'est ce type d'exposition à l'époque, on colle ça sur le mur. Il suffit de voir les salons, comment ils étaient aussi, comme ce qui nous paraît, nous, une espèce de pagaille. Là, on en met le plus possible le long des murs, et on voit qu'il y a des connaisseurs qui regardent un peu attentivement, etc., de manière aussi satirique. Et puis, dans le même temps, c'est pas grave. Celle du dessus, on s'aperçoit aussi qu'on est là pour regarder, mais on est là aussi pour se faire voir. Donc ça aussi, tout à fait classique des expositions, c'est des lieux aussi de reconnaissance sociale. Et alors, voilà, encore une autre caricature qui date de 1790, la suivante, dans un coin de rue, elle est très précise, et vous voyez là encore, alors, cette foule obstrue les trottoirs. Les trottoirs, on était aussi un petit peu en avance par rapport à la France. Les visiteurs le soulignent le plus souvent, et donc ils soulignent, ces visiteurs dont je parlais tout à l'heure, français, américains, etc., anglais, écossais ou allemand ou espagnol, ils soulignent la foule nombreuse qui était régulièrement devant ces boutiques. Et d'ailleurs, les observateurs, dans ces récits de voyage, ils sont à la fois, pour certains, fascinés par cette liberté, et d'autres trouvent que c'est absolument détestable d'avoir une telle liberté, que personne ne s'occupe vraiment de ces images qui devraient être en gros censurées. Et d'ailleurs, l'un des passages à la suite donc d'un récit d'un voilà, qui est sur celle d'après. Alors, c'est encore voilà, hein, une autre image et encore une suivante. J'ai la citation, bon, je vous en fais grâce, mais en gros, le voyageur nous dit et nous décrit une image. En parlant de juges qui baillent et il trouve que voilà, les oppositions de costumes, d'attitudes qui règnent nécessairement chez un peuple libre, près de la nature sur laquelle la délicatesse des femmes, le goût minutieux et les maîtres de danse n'ont pas encore établi leur empire tyrannique, donc allusion à la France, donnent à leur auteur une originalité que les François essaieraient en vain d'imiter. Et voilà, il trouve que ces images sont presque shocking. Et donc, il parle de celle-ci, sans la nommer, il parle de Bayeur, etc. Donc, on comprend de qui il s'agit. C'est une gravure de William Hogarth. Et William Hogarth, alors certainement pas un caricaturiste, hein, bien sûr. Il semblerait que toute sa vie, jusque sur son lit de mort, il ait absolument refusé cette étiquette. Il voyait ça comme une définition particulièrement discréditante de son œuvre et de son travail. Pour lui, il était un peintre de caractère, ce qui n'avait rien à voir. Mais vous voyez, on associe quand même facilement les deux autour de cette idée de peintre de caractère et de caricature. Hein. Vous voyez aussi la résonance étymologique. Alors, si on passe à la suivante, certaines personnalités. Alors ça va nous intéresser tout à l'heure avec Lord Bute en particulier, mais certaines personnalités vont être des figures plus que régulières dans les caricatures et ils vont apparaître, être régulièrement présentes. Alors il y en a beaucoup en fonction des périodes. Il y a par exemple, alors ça a fait l'objet d'un livre de Kenneth Baker autour du personnage de Burke, d'Edmund Burke, qui est énormément apparu dans la caricature. Donc il le suit à la trace, hein, Baker, une image après l'autre. Donc il les commente et ça donne un ouvrage évidemment particulièrement illustré et la vie politique d'un homme au travers de ses caricatures. Et autre personnage particulièrement caricaturé, alors ça nous intéresse aussi, vous le comprendrez tout à l'heure, avec l'idée de sans-culottes, c'est Charles James Fox, alors proche pendant longtemps d'Edmund Burke, et puis ils vont avoir cette séparation retentissante au sein même de la... du Parlement, dans la mesure où l'un, Charles James Fox, souhaite que l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne, ne rentre pas en conflit armé avec la France. Il est plutôt admiratif du début de la Révolution, alors ça n'en fait pas du tout un révolutionnaire, mais il a cette attitude et il emmène avec lui une partie de son parti d'opposition, les Whigs, pour essayer de s'opposer à cette guerre qu'il voit comme une intrusion étrangère dans des problèmes intérieurs français. Burke, lui, refuse cette attitude et au contraire veut absolument mettre un terme à cette expérience malheureuse de, selon lui, de la Révolution française. Et donc, Fox va être régulièrement, alors déjà depuis les années 1780, hein, depuis son apparition, où d'ailleurs dans les premières images, il est plutôt comme l'objet modèle, le macaroni ultime, voilà, où il représente la mode et le dandy anglais, pour devenir, vous voyez un petit peu plus tard, un sans-culotte, qui évidemment ne porte pas la culotte, et qui a les mains ensanglantées et qui chante le ça ira. Donc, Charles James Fox, pourquoi j'ai... Alors, parmi d'autres, hein, pourquoi j'ai choisi, c'est que, justement, il a pu dire, comme d'autres, que il avait sa carrière politique avait été amoindrie, entachée de la carrière qu'il aurait dû obtenir en raison des caricatures. Donc pour lui, c'est cette multiplication d'images qui l'attaque, hein, pour 80-100% d'entre elles, ont été des éléments à charge et ne lui ont pas permis d'avoir la carrière qu'il avait envisagée et que son talent, ça c'est selon lui, mais il en avait beaucoup, aurait dû lui donner. Et alors on peut aussi remarquer à ce propos que les hommes politiques, on a aussi quelques lettres qui sont ravis d'apprendre qu'ils rentrent dans la caricature. En plus, si c'est Guilleret qui les caricature, alors là, c'est on passe aux 20h, hein, à une époque, maintenant c'est fini. Mais l'idée de reconnaissance médiatique, si on participe, enfin si on apparaît dans une caricature, donc on pourrait lui rétorquer à Fox que finalement son apparition régulière lui a aussi donné un certain crédit médiatique, même si c'est évidemment toujours à charge. Alors, vous remarquerez parmi toutes ces images qu'il est toujours considéré donc comme un sans-culotte, qu'il veut importer les idées révolutionnaires en France, qu'il s'habille comme ce qu'on imagine d'un sans-culotte, c'est-à-dire sans culotte, enfin sans pantalon plus exactement, et donc il est toujours entouré de sans ira, de bonnets phrygiens, de cocards tricolores, de guillotines, c'est le traître dans toute sa splendeur, puisque il essaye d'importer ces idées de trahison et idéologiquement inquiétantes en Angleterre. Alors, avec aussi des gravures qui vont jouer beaucoup, vous l'aurez compris dès la première, autour de la sexualité, autour des parties privées que l'on ne devrait pas montrer, ou la scatologie, comme ce qui est la caricature en haut à droite. L'animalisation, la scatologie, ce sont aussi des ressorts et des mécaniques classiques de la caricature du temps. Alors, ensuite, après avoir évoqué tout ça, la situation française. Alors, la situation française, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a tout un tas d'éléments qui... c'est pareil, je ne regarde pas mon texte, donc si vous avez d'autres questions, des questions là-dessus tout à l'heure, je pourrais y revenir. Mais donc, j'ai bien expliqué que la caricature n'est pas exactement une invention française. On est plutôt... Le rire est important en France au XVIIIe siècle, mais c'est un rire plutôt littéraire. D'ailleurs, les premières caricatures contre-révolutionnaires en France seront marquées par cette littérature conservatrice, royaliste, et utilisera beaucoup la manne du verbe plutôt que du motif graphique. Et alors, les images ne sont évidemment pas absentes en France au XVIIIe siècle, même si la caricature, une fois de plus, est sur le côté. Les chiffres nous montrent au contraire que les images sont de plus en plus présentes à l'intérieur et à l'extérieur des habitats. Il y a d'abord une imagerie religieuse très importante, à la différence de l'Angleterre, enfin de la Grande-Bretagne, dans les églises, qui est là pour voir, regarder et apprendre. Il y a une imagerie extérieure que l'on voit sur les vêtements, sur les murs. On voit de plus en plus de coffres, de meubles qui sont travaillés et imagés. Et puis, on s'aperçoit aussi, les historiens ont aussi travaillé là-dessus, à partir des inventaires après décès, que dans les années 1780, par exemple, hein, de tête, on a dans les foyers du faubourg Saint-Antoine, qui est un faubourg populaire de Paris à l'époque, on a dans les inventaires des moyennes de 9 images par foyer. Ce qui est quand même pas rien, ce qui veut dire que les estampes, les éventuels petits tableaux, etc., font partie de l'univers de la population et même d'une population plus humble. Là-dessus, donc, il y a cet élément d'estampes qui se diffuse. Il y a aussi l'importance du rire. Là encore, je n'ai pas trop le temps d'élaborer, mais c'est aussi un élément, je l'ai un tout petit peu évoqué tout à l'heure, hein, la puissance du rire, et un rire qui est un rire qu'il faut bien, alors qui vaut pour l'ensemble du rire, qui est un rire de connivence. C'est-à-dire que lorsqu'on rit, on rit avec quelqu'un, et souvent au dépens de quelqu'un d'autre. Alors cette dimension de connivence, d'une sorte de bien commun du rire ensemble, exclut aussi un certain nombre de personnes et sera aussi un élément important lorsqu'on décrira l'autre, l'étranger. Et ça aussi, au XVIIe et au XVIIIe siècle, enfin dans la deuxième partie du XVIIe et au XVIIIe siècle, c'est un élément extrêmement important. Le rire de l'autre, le rire de l'étranger, est aussi quelque chose qui apparaît bien sûr dans les caricatures en Angleterre, mais pas simplement. En France aussi, on se moque facilement d'Espagnol, par exemple, toujours en fonction du poids de cet étranger dans la rivalité avec notre pays, avec la France. Et donc l'Espagnol ensuite va disparaître au profit de l'anglais, qui reviendra régulièrement, mais pas toujours, une fois de plus, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, dans la caricature. Alors, 1789, ça va être l'émergence, bien sûr, de toute une imagerie très importante, satirique, caricature, alors comme si... Les artistes n'avaient pas pu jusqu'alors évoquer en pleine liberté ce qu'ils voulaient dire, mais là ils rattrapent le temps perdu. Alors, exemple parmi des centaines de motifs, le dégraisseur patriote, le pressoir, où vous voyez, alors c'est une image, voilà, on commence bien à les lire en une seule fois, on voit un présent et puis un après, d'une certaine manière. Hein. Il y a toute une histoire qui se déroule avec l'idée du clergé qui s'est engraissé sur le dos du tiers-état. Mais maintenant, on le fait passer dans cette presse et ce dégraisseur patriote. Et donc, il va en sortir, comme vous le voyez, hein, il en sort sur toutes les pièces et il va en sortir sous la forme d'abbé, cette fois-ci très, très flué. Donc des motifs qui sont repris, recyclés et qui, ça, on en compte au moins une dizaine ou une douzaine. On en a mis 6 ou 7 dans notre livre avec Rolf Reichardt dont tu parlais tout à l'heure, Clarisse, hein, sur ces motifs qui reviennent et qui sont recyclés sur des longues périodes. Alors c'est aussi un autre élément qu'on retrouve en Angleterre, je vais en dire 2 mots tout de suite, mais qui... en France sont encore peut-être un peu plus importants, c'est qu'il n'y a pas de copyright. Donc une image, si on pense qu'elle peut avoir du succès et qu'elle a été faite par quelqu'un d'autre, ben on la pille, on la reprend et on la vend sous une autre forme, etc. C'est aussi pour ça qu'on voit beaucoup de traductions de caricatures anglaises en France, parce que ces gravures avaient déjà une expérience et une qualité graphique que n'avaient pas les Françaises, et donc on s'inspire des meilleurs. Voilà, recyclage est régulier. Et pornographie également, hein, régulièrement, sur alors un peu avant la Révolution, sous le manteau, Palais Royal, était toute une iconographie pornographique autour de Marie-Antoinette en particulier, qui apparaît et qui donc se répand de manière, clandestine, mais on sait qu'il y a quand même une certaine diffusion. Des illustrations de livres aussi censées être publiées à Genève ou à Amsterdam, mais qui en fait étaient en France. Et puis des motifs, alors là aussi on est avant la Révolution, vous voyez le tiers-état, image hein, tout à fait classique, tiers-état qui porte les deux autres ordres, et bientôt il y aura inversion des choses. Donc la caricature française véritablement s'implante en 1789, même si elle n'était pas complètement... elle avait un peu existé avant, c'est véritablement avec la Révolution qu'elle va pouvoir prendre son envol pour mieux ensuite disparaître et réapparaître dans les années 1830. Bref. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de Hogarth, et le voyageur qui évoquait The Bench évoquait cette image comme étant une caricature. Et en fait, voilà, une fois de plus, hein, Hogarth n'était pas d'accord. Et mais on peut aussi comprendre qu'il ait été une inspiration pour beaucoup de caricaturistes, en raison, une fois de plus, de cette idée qu'il travaille sur, qu'il fasse de la peinture de caractère. Et les caricaturistes vont s'inspirer, ou en tout cas, il va inspirer un certain nombre d'œuvres. Alors, on ne peut pas limiter, bien sûr, hein, son œuvre à cette inspiration. Il a eu, c'était un immense peintre graveur, très attentif à la qualité, d'ailleurs, de du rendu de ses gravures. Et peut-être que vous connaissez ce tableau, la porte de Calais. Alors, il y a une petite histoire que je vais vous conter rapidement, parce que, bon, si vous ne la connaissez pas, je pense que ça c'est intéressant. C'est que Hogarth se trouvait en France avec des amis, justement pour faire graver des œuvres, parce qu'il trouvait que le talent des graveurs français... donner un rendu particulier à son travail. Et puis, avec ce groupe d'amis, certains rentrent en Angleterre, mais en passant par la Belgique et les Pays-Bas. Et lui, il décide de rester en France et il va à Calais pour prendre son bateau. Et là, voyant une scène visiblement pittoresque qui doit l'attirer, on est en 1748, il sort son carnet et il commence à faire un croquis de la scène qu'il voit. Et il se fait arrêter. Alors là, ensuite, il y a plusieurs versions. Il est présenté devant le gouverneur. Là, on raconte qu'il fait des caricatures du gouverneur, des gardes, etc. On s'aperçoit que c'est un artiste et donc on le laisse partir. Ou, probablement, plus raisonnablement, il explique qu'en effet, il est un artiste, que c'était simplement des croquis, qu'il n'est pas un espion, parce que c'est la raison pour laquelle il avait été arrêté. Et donc, c'est la raison pour... et donc, on le laisse libre, on le place dans l'auberge qui était réservée aux voyageurs anglais, en lui disant, il ne faut pas sortir, et vous prendrez le prochain bateau pour l'Angleterre. Et... au retour en Angleterre, il réalise ce tableau. Alors, qu'il y a tout un tas d'interprétations. Certains même voient ce tableau comme un tableau pro-français. J'ai un peu de mal à le voir, mais bon. C'est plutôt, me semble-t-il, une attaque en règle à partir de tous les poncifs autour donc de la France. Alors, une France qui est... marqué par le contraste entre l'abbé plein de chair qui regarde avec beaucoup d'intérêt cette pièce de bœuf dont on nous apprend qu'elle n'est pas pour les Français mais qu'elle va en direction de l'auberge où justement séjournaient les Anglais. Donc la pièce de bœuf n'est pas pour les Français, eux ils vont simplement se contenter de soupe maigre qui est ici. C'est une France encore très presque moyenâgeuse. Bon, peut-être celle d'après parce que c'est la gravure, on voit mieux. Où un groupe de femmes, vous voyez, avec des croix autour du cou, sont en train d'essayer de lire dans les entrailles d'une raie l'avenir ou des présages. Et puis derrière, il y a une procession qui est en train de se dérouler. Et comme vous le voyez aussi. La seule partie qui est un peu illuminée, ce sont les armes de l'Angleterre, parce que Calais a longtemps été une ville anglaise. Et puis, ici, un peu à la manière de Hitchcock, il s'est représenté. Alors, vous voyez, on est en train de l'arrêter, main sur son épaule, la hallebarde qui est là. Et donc, Hogarth et Hitchcock est en train de faire un croquis avant d'être arrêté. Alors, ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'il a aussi représenté ce personnage qui est à droite, qui est un personnage alors, tout à fait classique de la caricature autour des Écossais, puisque il est en habit de Highlanders, hein, voilà, c'est montagnards de la, des Highlands, qui est en train de faire l'aumône en France. Et pourquoi on est en 1748? Parce que en 1745, il y a eu ces révoltes jacobites et ils avaient mal choisi leur camp. Il y a eu Culloden et donc un certain nombre, visiblement, de... Alors, ce qui est vrai, bien sûr, hein, d'Écossais se sont rendus en France et ils le transforment en un mendiant. Expliquant par là que s'il n'avait pas pris part à ces oppositions, à ces révoltes, il serait dans une autre situation. Donc cette idée de viande, d'ailleurs, hein, il a été remarqué aussi qu'il y a presque une gueule ouverte de cette porte ici, hein, il y a deux portes. Et donc c'est comme une gueule ouverte d'un animal qui est en train de manger. Un régime politique, le régime politique, celui des libertés, c'est l'anglais. Le régime politique français de l'absolutisme, c'est qui est aussi confondu avec le catholicisme. Voilà. Donc voilà l'image. Il reprend pour l'occasion un titre et on l'associe à un petit texte d'un de ses amis ça va devenir cette image et ce poème All the Roast Beef of All England, un chant patriotique entonné régulièrement dans les moments de lutte avec les Français. Et donc on voit que ce personnage du Highlander, il est finalement associé à la France en raison de ses prises de position politique. Et puis, il y a aussi cette idée de... Alors, il y a tout un petit livre sur la question, hein, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais qui marque bien cette symbolique forte autour de la viande que la France et les Français ne peuvent pas atteindre, mais qui est le plat presque naturel en Angleterre. Alors, ça va donner des suites très très nombreuses. Je ne vous les ai pas mis parce que c'est en dehors de notre propos. Mais les caricaturistes anglais actuels ou presque actuels, Steve Bell, pardon, qui était le caricaturiste attitré du Guardian il y a quelques mois, au moment de la vache folle, avait repris l'image de Hogarth. Il m'a expliqué qu'en fait, il a fait une photocopie, il a mis du Tipex, et puis il a redessiné par-dessus le personnage de John Major, donc, qui est en train de crier à la population dans le panique, hein, avec son sous-vêtement, là, à la manière d'un Superman qui achète ses sous-vêtements chez Marks & Spencer. C'est la définition qu'en donne Steve Bell. All the roast beef of all England, il crie dans le panique, pas d'inquiétude. Alors, ça veut dire aussi qu'en Angleterre, là, il y a une, et je pourrais vous montrer plein d'autres exemples, il y a une sorte de souvenir de cet âge d'or de la caricature anglaise de la fin du XVIIIe siècle, et que les caricaturistes puisent régulièrement dans ces images un peu emblématiques de leur genre, dont ils sont les poursuivants. Alors, ensuite, l'attention portée à la viande est un élément tout à fait classique de la caricature et des relations en particulier entre la France et l'Angleterre. Donc ici, on est dans une caricature, gravure satirique, donc The Frenchman at Market. Il y a un article de journal qui décrit ce qui s'est passé. On peut imaginer que ce n'est pas vrai, mais ce que cela veut dire, c'est que, vous voyez, il y a une association entre un journal qui décrit la scène et cette gravure qui la donne à la voir. Donc une sorte de petite campagne médiatique. Et ce type d'image, il y en a beaucoup, donc on est dans les années 1770, ça vient de l'Oxford Magazine, je crois. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une autre image qui est pratiquement semblable. voilà, avec quelques petits motifs différents. Et puis, il y a celle-ci, alors, qui, moi, m'a intéressé en raison d'Écossais, qui se trouve sur la gauche, à droite de l'image, et qui est en train de voler une pièce de bœuf. Et donc, c'est une altercation entre un boucher et un Français. Alors, Français, dans les comédies à l'époque, comme dans les caricatures, c'est souvent le French fop. Habillé de manière un peu exubérante. Alors, dans les comédies, souvent des comédies très courtes, on le voit apparaître, donc tout le public pense qu'il s'agit d'un aristocrate en raison de ses dentelles, de la manière dont il est habillé. Et puis on se rend compte rapidement qu'en fait, c'est le valet de l'aristocrate ou le maître de danse ou le coiffeur, enfin bon, bref, barbier. Et donc là, on a ce prototype du French fop qui est battu, en tout cas, voilà, qui est en train de subir l'attaque du poing du boucher. On ne connaît pas les raisons de l'altercation, mais en fait, tout le monde en profite. On voit le petit chien qui est en train d'uriner sur ses jambes. On voit les deux personnes derrière aussi qui, je crois, lui en train de lui faire les poches. Et puis il y en a un autre aussi, alors tout à fait classique, qui lui coupe son catogan, parce que c'était aussi le catogan dans les images et dans les représentations, un des motifs du français. Et donc, pendant que cet incident a lieu, eh ben, on a un Écossais qui est en train de voler de la viande. Alors, là, les interprétations, elles peuvent différer. Est-ce qu'on a un élément de sympathie pour cet Écossais qui en est réduit à voler de la viande? Finalement, il est un peu en dehors de la scène. Est-ce que ça veut dire que les Écossais ne sont pas, on est en 1770, mais ne sont toujours pas véritablement incorporés en Grande-Bretagne? Ils sont encore à l'extérieur et ils utilisent de subterfuges et de vols pour survivre. Ou alors, il nous semble on a une vision plus bienveillante de ce personnage qui est un peu comme nous, finalement en train de regarder la scène, même si lui il a un autre intérêt. En tout cas, ce qu'on remarque, c'est que alors que depuis Culloden, le kilt ou l'habit traditionnel, mais surtout le kilt, ne devait plus être porté en Angleterre, sauf par les militaires, dans les caricatures, on fait fi de cette réalité. Alors, ensuite, loi qui va disparaître en 1782, les Écossais, mais évidemment pour bien les identifier, vont être représentés selon l'habit traditionnel, des Highlanders. Alors, ensuite, image. Alors, les caricatures vont énormément. Enfin, j'ai un chiffre d'ailleurs, je vais vous le donner, parce que voilà, je travaillais, donc pas de raison. Pour ce qui est de la production des Écossais dans la caricature, alors j'ai fait une petite enquête de 1761 à 1808. Le moment où ils sont quand même le plus nombreux, justement en raison de leur but, ce qu'on va voir tout de suite, j'ai relevé 171 caricatures politiques portant où apparaît un Écossais. Et ça, c'est sans compter les caricatures d'ordre de mœurs sociales. Donc, on doit être à peu près à 200 caricatures, ce qui fait un joli petit corpus que je vais peut-être proposer à un étudiant de master parce que c'est quand même très riche autour d'un personnage en particulier qui se trouve ici, Lord Bute, qui est indiqué sous le médaillon, qui va attirer à lui véritablement les projecteurs des caricaturistes. Et il y a une campagne médiatique, il a même été, il faut regarder précisément, hein, mais il a été même indiqué, avancé, que ça a été probablement l'homme politique le plus caricaturé du XVIIIe siècle. Donc, en effet, sur une période finalement assez courte, mais qui dépasse la réalité de son pouvoir politique, puisque finalement, il va rester au pouvoir pas très longtemps, mais en raison de ses liens étroits avec Georges III, on va lui attribuer tous les maux, et énormément de caricatures vont le représenter et vont s'attaquer à lui toujours l'Écossais, hein, c'est ce qui est d'abord mis en avant, qui conseille et qui en fait la politique tout en étant à l'extérieur, donc conseille le roi et tout finalement passe par lui. Et puis on lui reproche aussi, enfin en tout cas ça fait partie du discrédit qui l'accompagne, qu'il aurait eu une liaison, ou qu'il a une liaison avec la princesse de Galles, donc il va être bientôt veuve, hein, voilà, et qui dont le mari ne va pas régner. Cette association sentimentale est ici symbolisée par cette pagode qui avait été construite en l'honneur de la princesse de Galles. Et donc régulièrement, elle n'a pas besoin d'apparaître sous son nom, il suffit d'avoir ce motif pour qu'on comprenne qu'elle est associée, qu'elle apparaît, et le plus souvent en association avec Bute. Et donc, vous voyez aussi, tout à fait classique, on est dans les années 1770, on n'est qu'encore dans des images, alors, en noir et blanc, certes, pas toutes, parce que depuis les années 1748-1752, il y a de la couleur. Alors, la couleur, ça veut dire qu'on colorie. C'est les petites mains dans les boutiques de caricaturistes qui apprennent le métier, pour certains, ça sera le cas, qui colorient les caricatures. Alors, il faut être vigilant sur notre interprétation des couleurs, parce que quand on rapproche certaines caricatures conservées dans divers lieux d'exposition, lieux de conservation, on s'aperçoit que les images, les couleurs ne sont pas du tout les mêmes. Mais là, ce type d'image n'appelait pas à la couleur. Et donc, animalisation, qui est aussi un élément, hein, je disais tout à l'heure, ce caractère d'hybridation tout à fait classique. Et d'ailleurs, vous le voyez un petit peu plus tard, en France, alors, il n'y a pas de... J'essaye pas là de trouver un motif qui la caricature de droite sur Lafayette serait inspirée par celle de gauche. C'est pas une question d'inspiration. C'est plutôt un univers visuel et graphique commun et donc une association. Mais probablement que le graveur anonyme sur Lafayette n'avait jamais vu cette image du centaure. Mais dans les deux cas, c'est le centaure, alors avec le jeu de mots français, hein, le centaure, comme vous voyez à droite, parce que Lafayette avait essayé de se démarquer de sa responsabilité lors de l'attaque à Versailles des 5 et 6 octobre 1789. Donc après ça, il est associé à cette image du centaure. Et puis le centaure, c'est aussi là un cheval blanc, et il était lui aussi, en tant que chef des gardes nationales, il était aussi il avait un cheval blanc qui le rendait aussi tout à fait reconnaissable. Donc vous voyez, les images partagent, sans forcément se connaître, des motifs semblables, et parmi ceux-là, l'animalisation est un élément très, très important. Alors Bute, donc, ce sont des dizaines et des dizaines d'images sur ce personnage. Ici, il est représenté, alors vous voyez, il y a toujours le plaid, hein, qui est autour de lui pour bien le symboliser. Alors, on est encore, on utilise Shakespeare aussi, parce que si c'est Macbeth, évidemment, c'est Shakespeare. Et puis, c'est le retour de Shakespeare au XVIIIe siècle, donc ça, c'est aussi important. Et puis, on va éventuellement, parce que ça, c'est une écriture probablement ultérieure, on va, pour identifier les personnages, on va indiquer de qui il s'agit. Et plus le temps va passer, alors parfois on retrouve hein, dans les gravures, ces noms à la plume d'acheteurs qui ont voulu identifier, donc qui ont indiqué les noms. Mais on s'en défait de cette pratique parce que avec l'expérience, on reconnaît les personnages. Il y a une sorte de trombinoscope hein, qui fait partie aussi de la caricature. Et donc là, on a ce colosse. Pete est en train de lui demander sa pitié. Il regarde avec intérêt ses bourses. Alors, vous voyez où est placé Pete, entre ses jambes, les bourses. Il y a quand même des éléments aussi dénotation sexuelle. Et puis, il est sur deux piliers, hein, la fraude et la luxure, pour bien aussi symboliser ses défauts tels qu'ils sont souvent et régulièrement représentés dans les images. Donc, campagne énorme autour de Bute qui monopolise, donc 1767, qui monopolise l'attraction et la représentation de l'Écossais dans les images. Je ne me rends pas compte du tout du temps. En temps, tu me donnes encore combien de temps ? 9 minutes ? Non.
Je dirais
15 minutes. Ah. Alors, vous m'arrêterez, hein, de toute façon, voilà. Vous me lancerez des cailloux. Donc cette idée d'être sous la jupe, alors qui, bien sûr, vous avez compris, il y a cette association avec le kilt, hein, bien sûr, et c'est aussi un motif traditionnel que l'on retrouve en Angleterre. Alors, la première fois, même si des enjambées, il y en a eu avant cette date, mais en 1791, on a cette gravure un peu emblématique de donc, Imperial Stride, hein, l'enjambée impériale, où on a Catherine II de Russie qui est en train de marcher d'enjambée de la Russie à Constantinople sous le regard graveleux, parce que chacun hein, fait des commentaires graveleux, des têtes couronnées européennes qui regardent donc sous les jupes de l'impératrice, de la tsarine. Donc ça va être une image qui va rapidement se diffuser en France, puisque quelques mois plus tard, la fuite et l'arrestation de la reine à Varennes, et la famille royale, va donner lieu à aussi énormément d'images, qui transforment d'ailleurs le roi en cochon, hein, c'est tout à fait classique, et on va avoir aussi la même idée de cette enjambée de la Sainte Famille, des Tuileries à Montmidi, ou à Varennes, en se rendant à Montmidi, à représenter, voilà, midi, avec cette horloge, le rocher, les Tuileries, l'affaire du collier, et puis en représentant la reine comme Marie-Antoinette, comme l'instigatrice de la fuite. Donc vous voyez, cette idée d'être sous les jupes, c'est aussi tout à fait classique, et donc ce sera très facilement reconduit avec le personnage de l'Écossais. Et puis, mais ça peut paraître aussi comme tout à l'heure avec les bourses, on a aussi Napoléon. Là, on doit être en 1796, me semble-t-il, 96-97, c'est l'une des premières représentations de Napoléon, enfin de Bonaparte, dans la caricature anglaise de l'époque. Il est pour l'instant pas identifié, c'est pas encore Little Bonnie, comme on va bientôt l'appeler, un personnage avec le grand chapeau, le profil que l'on connaît, etc. Là, c'est une sorte de grand escroc griffe, sans culotte, bien sûr, qui, avec ses grandes bottes, là encore, selon une symbolique associée au cocher français, est en train de poser ses grosses bottes sur deux capitales, sous le regard aussi inquiet. Alors cette fois-ci, là encore, un écossais, hein, Dundas, Burke, Pete, le roi, la reine, qui là aussi font des remarques un peu graveleuses sur ce qu'ils sont en train de voir et cet énorme globe qui pend entre ses jambes. Alors le globe, ça va être aussi un élément associé, qui va se trouver sous d'autres positions, associé à la, à la soif, à l'ambition dévorante de Bonaparte, puis bientôt de Napoléon. Donc vous comprenez comment facilement, finalement, regarder sous un kilt, ça provoque le rire parce qu'on a déjà un petit peu ces motifs en tête et des réactions presque classiques. Alors Bute, autre élément, je vous en ai choisi que quelques-unes, mais on aurait pu en mettre beaucoup. Donc c'est Bute qui, là encore, alors une machine volante. Alors il va y avoir l'année prochaine, ça doit ouvrir au mois de juin, je crois, une exposition sur la caricature et le domaine aéronautique au salon du Bourget. Donc je dois faire un chapitre du catalogue, et je pense que je vais mettre cette image parce qu'on est là dans ces premières inventions d'aéronautique, hein, d'ailes aéroportées, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, et avant les ballons, puisque voilà, avec Montgolfier, ça va être les ballons qui vont commencer à attirer l'œil du caricaturiste. Et là, on a donc Bute qui, avec ses bourses, toujours, parce que associé à l'argent, alors ça aussi, est-ce que ça va former, en tout cas, ça sera quelque chose de résiduel dans la vision de l'Écossais, les sacs d'argent, l'argent, son intérêt pour l'argent, voilà, selon ensuite des poncifs que l'on connaît. Et il est aussi, alors ça, tout à fait classique aussi de la caricature, associé au diable. Et ça, le diable comme mécanique, comme outil, comme symbolique, négatif, dès qu'il est associé à un personnage, c'est quelque chose de tout à fait classique dans la caricature. Et évidemment, on a la pauvre princesse de Galles qui se morfond de voir son amant potentiel, en tout cas, partir, quitter l'Angleterre. Le diable dit je suis content de l'avoir, d'avoir la tête et tout, parce que probablement pour signifier que s'il était incarcéré, reconnu coupable, on pouvait lui couper la tête. Et donc là, au moins il a tout. Et puis, alors là, vous allez peut-être m'aider, il se dirige vers Barège. Barège, alors là, j'ai regardé. Barège, il y a dans le pays de ma famille, à côté du Tourmalet, il y a un Barège, mais je ne vois pas trop, à moins qu'il y ait des récits de voyage à l'époque qui mentionnaient, mais bon, alors est-ce que ça. Bruges, mais bon, c'est pas près de la mer. Bref, il y a quand même. On ne comprend pas tout, ça nécessiterait d'un peu plus de recherche. En tout cas, Bute. Lord Bute, le diable, l'animalisation, ce sont aussi des éléments tout à fait classiques qui vont marquer cette représentation. Et puis, alors encore une autre, je vais passer vite. Alors là, vous voyez, il est en train d'embrasser, enfin en tout cas, il est dans un moment de relations sentimentales avec la princesse. Alors autour, il y a tout un tas d'éléments qui marquent son pride, ingratitude, etc. Tout ça, scotch, amusement, hein, comme si c'était la vie quotidienne des Écossais. Donc il y a toujours quand même ce regard assez négatif sur la population écossaise dans les images, dans les caricatures. Ils font partie de la Grande-Bretagne, mais on sent bien qu'il y a quand même un fond de xénophobie qui est encore très, très lourd et accentué autour du personnage de Bute. On saute quelques dizaines d'années, parce qu'il va y avoir un autre personnage très largement représenté dans la caricature anglaise. Pas en nombre, probablement moins, c'est plutôt un personnage qui est rarement un personnage principal, qui est Dundas, qui, alors très proche de Pitt, hein, qui a été de tous les combats pendant l'époque de la Révolution française et un peu au-delà, donc associé en tant que ministre à Pitt, et il est accusé sur la fin de sa carrière politique de malversation financière. Et donc là aussi, voyez, Pitt lui propose de prendre des gouttes, voilà, qui ont pour lui fait beaucoup d'effet. Donc il n'en veut pas et il vomit, parce que là aussi, hein, on a la scatologie, ça part dans tous les sens, la bouche, le postérieur, etc. On est aussi dans une forme de tradition populaire. Pas forcément pour un public populaire, c'est-à-dire que ces images coûtent cher, mais avec des réflexes dans les motifs et dans les mécanismes visuels qui viennent de traditions très, très anciennes. Alors, personnage d'Arlequin, là aussi, j'aurais pu. Il y a des associations entre Bute et Arlequin. Alors la Commedia dell'arte, mais aussi l'habit, hein, tout ça est aussi associé. Et vous voyez combien ces images sont quand même très très semblables. On voit bien qu'il y en a un qui a eu l'idée, et puis hop, les deux autres, alors Cruikshank sur la gauche, je ne sais plus les deux autres, mais bref. Donc on reprend lorsqu'on considère que la caricature est bonne. Le motif est intéressant, hop, on pille, on recycle et on vend. Parce que c'est aussi la médiation commerciale, il faut vendre. C'est aussi important de gagner sa vie avec ces images. Donc, deuxième grand personnage de ces images, c'est Dundas, là aussi, toujours associé à Pitt, et comme Pitt a fait aussi l'objet d'innombrables caricatures, il apparaît très, 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 très régulièrement comme celui qui tient l'Écosse. Voilà, c'est d'ailleurs pas faux. Mais en tout cas, le soutien le plus fort à Pitt, et puis un troisième personnage, Grenville, hein, qui sont aussi associés dans ce triumvirat qui représente le gouvernement anglais à la fin du XVIIIe siècle. Alors l'autre poncif associé aux Écossais dans la caricature, c'est souvent leur saleté. Et souvent, les rues, alors ça vient aussi des journaux, ça vient aussi des récits de voyage. Alors, à un moment où justement, on est en train d'admirer les Highlands, où on est en train de les représenter, enfin de les décrire comme un peuple chaleureux, bienveillant, qui vous accueille, accueillant. Et puis dans le même temps, il y a toujours ces poncifs anciens, la ville d'Édimbourg en particulier, où se situe cette image, est apparemment remplie de seaux d'ordures et autres qui sont jetés par la fenêtre. On est en train, vous voyez, d'uriner dans un autre seau. Là, il y en a un autre. En même temps, on fait de la soupe, on est en train d'en vendre. Donc, tout ça dans cet univers, cette petite impasse. Ou alors il dit, fais attention à ce que tu fais, quoi. Tiens tes mains, ma fille, à la servante qui est en train de jeter le pot de chambre de la veille. Et c'est The Flowers of Edinburgh, évidemment. Voilà, le contraste, hein, souvent on joue aussi sur les mots avec la légende et la lettre de la gravure. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est un détail, mais ce caricaturiste, qui n'est pas très très connu, il fait publier des annonces comme étant un coloriste de gravure. Et effectivement, il a une qualité dans le coloriage, dans le coloris de cette image, qui montre bien que c'était un métier et que il pouvait en vivre, ou en tout cas il pouvait avoir des clients parce que il en avait l'expérience et le talent. Alors ça, cette saleté, c'est souvent associé. Alors ça, très très célèbre aussi, c'est une gravure qui doit dater de 1740 et quelques, qui renvoie donc à Sony, qui est Sony Bean, ce mythique Highlander qui élevé avec sa famille dans une grotte, qui aurait aussi mangé de la chair humaine. Enfin, voilà, il y a toute une histoire. Et là, il arrive à Londres, et évidemment, il ne connaît pas les coutumes locales, il ne connaît pas les latrines, et donc il met les pieds à l'intérieur, alors qu'à l'endroit où on devrait mettre son postérieur. Donc c'est pour aussi montrer le décalage entre cet homme du Nord qui ne connaît pas les coutumes de la ville. Alors, vous voyez aussi combien... Alors, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Il y a tout un tas de gravures aussi qui sont autour de lui. Donc c'est vrai que dans ces lieux publics, les gravures étaient affichées, voilà, même dans des lieux un peu intimes. Et un petit peu plus tard, alors le grand caricaturiste de la fin du XVIIIe siècle donc va reprendre la même image, va l'actualiser, va lui donner, vous voyez, plus de force, vous voyez la manière dont il le représente, les traits du visage. On est là dans la grande caricature. Alors, il a enlevé les autres images, enfin les autres gravures du mur. Il a mis simplement un chardon qui pousse d'une couronne. Et il renvoie aussi à un certain nombre d'événements qui viennent se passer, de mouvements après le décret d'adoucissement envers la population catholique. Et donc, il y a quand même cette association longtemps entre le catholicisme et les Highlanders. Hein, et c'est ce qui a aussi provoqué le jacobitisme et... Les soulèvements des années 1700-1745. Mais voilà l'image assez peu flatteuse du caricaturiste, de l'Écossais. Alors là, c'est aussi intéressant, c'est qu'on a visiblement encore une troisième image à la même époque qui reprend la première, qui recycle le motif de la première, sauf que cette image, on ne l'a plus, voilà, elle a disparu. Mais on a en revanche un pot en porcelaine chinoise qui a utilisé le motif sur ce pot. Et comment on le sait aussi, c'est que, alors ça c'est assez aussi incroyable, c'est qu'il est indiqué le nom de l'auteur de la caricature, on le connaît, c'est Dighton. Et voilà, donc l'image est référencée sur le pot, et ça veut dire que, alors sur le pot, voilà, c'est... ça tombe bien, et il y a un va-et-vient entre ces motifs qui peuvent apparaître sur les estampes, mais qui peuvent apparaître aussi sur des mugs, sur des pots, sur des... etc. Voilà. Donc ça veut dire que le motif est populaire, et ça veut dire aussi que les images peuvent disparaître, mais que voilà, les objets, eux, peuvent rester. Alors, c'est bien avec les guirlandes, c'est parfait. Alors, autre élément tout à fait classique, c'est il y a des formes d'identité nationale qui apparaissent à cette époque, qui sont très très fortes, alors à travers toute la caricature, mais c'est le moment de l'apparition de personnages comme Britannia, bien sûr, comme John Bull, hein, au XVIIIe siècle, et les représentations, les représentants de tous les pays. Alors ici, on a le Don espagnol qui est envoyé en l'air par justement le John Bull britannique. On a le français, le French Fop, dont je parlais tout à l'heure, qui essaye de protéger, mais pas tellement, la représentation autochtone des colonies américaines, donc des Amériques. Tout ça sous le regard malicieux, parce qu'on est en pleine guerre de l'indépendance américaine, sous le regard malicieux du Hollandais, hein, du Néerlandais. Et puis, on a l'Écossais qui apparaît ici, et qui, là encore, si je me trompe, c'est encore Bute, mais je peux me tromper, en tout cas, qui est lui aussi associé à cette représentation. Alors oui, finalement, l'Écosse fait encore partie, grâce à la tenue des Highlanders, qui est aussi tenue qui vient d'être inventée d'une certaine manière. Hein, ça, vous pouvez aussi connaître tout ça, mais qui impose cette représentation ultime de l'Écossais et qui participe au cercle des pays européens, voire mondiaux. et donc John Bull sous la forme de l'anglais moyen, sous la forme d'un taureau. Ensuite, on l'a déjà vu passer, mais je n'ai pas donné son nom tout à l'heure. C'est un caricaturiste très intéressant qui s'appelle Richard Newton. Et Richard Newton, il a l'originalité d'être mort à 21 ans, mais en ayant quand même produit plus de 300 images. Il a commencé très très jeune, justement à colorier dans un magasin de caricatures. Et puis, en raison du décès de ses parents, il a eu une petite somme qu'il a investie et il s'est mis à son compte. Il a ouvert une boutique, il devait avoir 16-17 ans. Et donc, il produit des caricatures qui sont merveilleuses. Alors, il est jeune, c'est un esprit un peu potache. Mais il y a une grande liberté de ton, il a véritablement un talent, il n'est probablement pas au niveau, parce qu'il n'a pas la culture de Guilleret ou de Rolandson ou même de Cruikshank, mais il a autre chose, une fraîcheur, et il arrive à faire partager sa démarche ironique. Et donc là, il nous montre ce Flight of Scotchmen. Alors ça, c'est aussi classique. C'est que autour de Lord Bute, mais pas uniquement, il y a cette description d'une arrivée massive. Alors c'est vrai qu'ils sont en pleine expansion démographique, d'Écossais qui arrivent à Londres, voire même, vous voyez, ils vont en Amérique, en Irlande, en Europe, etc. Tous habillés pareil, on dirait des parachutistes, mais qui donc descendent sur Londres en particulier. Alors ils ont tous, ils ont les bagpipes, ils vendent des espèces de babioles là dans un... Donc toujours à moitié pauvre, mais essayant de s'en sortir. Et ils arrivent en masse dans les rues de Londres. Et ce qu'on va reprocher à Bute aussi régulièrement, c'est qu'il a favorisé cette venue en plaçant beaucoup d'Écossais dans des postes de responsabilité. Donc ça aussi, c'est mal vu. Donc là encore, la situation de l'Écossais et de l'Écosse à cette époque est encore un peu fragile. Donc voilà, alors toujours le même Richard Newton, donc il l'indique, dessiné et gravé par Richard Newton. Il avait travaillé pour William Holland aussi pendant longtemps. Alors là aussi, tout à fait révélateur de la manière dont on voit encore les Écossais à cette époque. On est là dans les années 1790. C'est alors sous le titre Progress of a Scotsman. Progress, c'est évidemment, ça fait référence à Hogarth et à cette tradition de presque de bande dessinée, du comics qui raconte une histoire, une progression de la vie. Et là, on voit cet Écossais, alors évidemment sans culotte, qui commence dans une assez grande pauvreté, d'ailleurs pour essayer d'épargner ses habits, vous voyez, il le porte sur un bâton, donc il quitte sa campagne, il arrive à Édimbourg, donc les petits textes l'expliquent, je vous le raconte en deux mots, et il est évidemment dans une position peu flatteuse, et puis il poursuit sa route, il arrive en Angleterre, là il devient le majordome, si vous voulez, d'un riche lord, je crois, et alors il comprend que tous les gens qui veulent voir le lord, il va leur demander de l'argent pour pouvoir avoir une entrevue avec celui qui l'emploie, et donc il va s'enrichir. Il va même prêter de l'argent à celui qui l'a employé, mais il ne va pas vouloir ensuite, l'autre a des problèmes d'argent, il ne va pas pouvoir lui rendre, et là, il se montre odieux avec lui, il crie, donc sa position devient très confortable, il épouse une héritière, et là, bientôt, il termine, après avoir été, comme vous voyez ici, membre, enfin avoir une position d'importance à House of Commons, je crois, et lui-même devient ensuite l'ordre sur la fin. Donc vous voyez une progression positive, mais qui marque quand même sa vraie nature, qui est odieuse, aimant l'argent et n'ayant aucune reconnaissance. Alors, c'est donc, je pense, aussi un élément tout à fait traditionnel de cette représentation. Alors, évidemment, hein, négative. Il me reste encore quelques minutes ou...
Moi, non. 19h26, la seule contrainte, c'est que
Alors, je passe rapidement. Bon, celle-là, le scotch, le maître de danse, voilà, tout à fait aussi classique. Oui, voilà. Et comme ça, je dis deux mots à chaque fois. Excuse-moi. Voilà. Voilà le maître de danse. Alors, vous voyez comment ils produisent de la musique en se grattant le postérieur et les jambes. Voilà. Ensuite, alors, c'est le retour, bien sûr, du kilt. Et voilà, on ne porte pas de culotte sous le kilt. Donc, la famille royale regarde avec intérêt ce qui se déroule, enfin ce qui se passe sous ce kilt. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver évidemment en France, parce que en France, ben voilà, maintenant on a des caricature shops, hein, on a des boutiques, le métier s'est aussi professionnalisé, et donc à partir de là, eh ben on va avoir beaucoup d'images, alors en particulier autour des Anglais en 1814-1815. Donc Milord Plum Pudding avec Lady Diarrhée, voilà, Lady Diarrhée. Donc le jeu de mots, parce que c'est toujours très français, il y a cette volonté du calembour qui revient à cet élément de rieur. Alors là, c'est pas un écossais, mais c'était pour introduire les autres images, parce que comme vous le verrez, les autres images vont surtout... Alors premièrement, il y a des images de mode, ça aussi c'est quelque chose qui est important pour bien connaître le costume. Mais il y a cette diffusion de représentations classiques, voilà, comme celle-ci. Alors c'est pas la caricature, vous voyez, c'est des images un peu ironiques, la rencontre de l'anglais et du français, mais ça permet d'identifier les costumes, les uniformes surtout. Et là, ben voilà, le prétexte de se relasser pour regarder ce qui est sous la jupe sous le kilt qui évidemment ne porte pas culotte. Les Écossais à Paris, ou la curiosité des femmes, là toujours avec le coup de vent malicieux. Alors là aussi c'est intéressant, parce que voilà, elle regarde aussi avec attention. Il y a l'image du cheval, qui est souvent aussi associé à des performances sexuelles. Je me demande s'ils ne sont pas en train de ramasser des cerises aussi. Enfin voilà, il y a là aussi un petit jeu autour de la sexualité. Et puis ben, ça va jusque, c'était pratiquement la dernière, ça va jusque dans les premières années du XXe siècle, puisque vous voyez, alors comme ça mon pauvre gars, les Boches t'ont chipé la culotte. Un Français militaire qui parle avec un Écossais lors de la guerre de 14. Et puis il y a aussi cette représentation. Alors il y a eu un formidable livre de Baridon sur ces images de ces cartographies animées, et voilà comment est représentée l'Écosse dans une série. Alors il y a l'Irlande, il y a l'Écosse, il y a l'Angleterre avec l'Irlande, etc. Et donc sous la forme donc d'une espèce de punch, du punch et Julie. Et puis ben, vous voyez que c'était aussi des classiques, et que comme je le disais tout à l'heure, ces images ne sont pas oubliées, puisque celle de Guilleret, qui là encore scatologie, hein, qui refusait l'invasion française avec l'image du French Fop, ben, ici elle est revenue avec Boris Johnson de la gauche, toujours sous les traits de Stibel, et Emmanuel Macron qui, c'est vrai, reprend assez bien l'image un peu du French Fop de l'époque. Donc ils se sont fait aussi plaisir. Voilà, excusez-moi, j'ai été très très et trop long.
Merci. C'est un exercice difficile que de commenter rapidement autant de dessins de caricatures, mais qui nous donne un panel assez large de la représentation des Écossais à la période moderne finalement, et presque même à la période. contemporaine, de façon anecdotique. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à des loisirs plus...
Merci beaucoup, c'est très intéressant. Donc on voit les cibles de